This is a vicious expose of a part of the young generation, that sick generation who must ravage and plunder for their kicks.
Culture Prohibée attaque Gérard May. Et oui, c'est déjà le troisième épisode en direct du 19e Festival International du Film Fantastique de Gérard May pour toute l'équipe de Culture Prohibée. On vous rappelle que Culture Prohibée est l'émission normalement hebdomadaire qui traite de l'actualité de la culture panette du Ciboulot, mais que, exceptionnellement, pendant le Festival International du Film Fantastique de Gérard May, l'émission est quotidienne. Alors Culture Prohibée est bien sûr toujours animée par les équipes des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, et pour plus d'infos sur notre émission, il y a bien sûr le blog culture-prohibée.blogspot.com. Et je suis aujourd'hui accompagné, comme tous les jours durant ce festival, d'un Pierrick Guénec en pleine forme, alias le Yeti Breton. Salut Pierrick.
Bonjour Jérôme.
Alors aujourd'hui il y aura un petit aparté sur un film hors compétition, on vous en reparlera. Mais tout d'abord, on va parler du film qui a été projeté dans la matinée, qui s'appelle Elle, donc Enfer, hein, qui est donc un film de Tim Felbaum. Alors, c'est un premier long métrage pour ce jeune homme né en 1982 en Suisse, à Bâle. Mais là, le film est allemand, en fait. Et c'est son premier long métrage, après des clips, des courts-métrages, enfin bon. Et c'est un film donc post-apocalyptique qui raconte en fait le voyage, enfin en fait ça se passe en 2014, la Terre à cause du réchauffement climatique est devenue invivable et il y a énormément donc il y a plus grand monde sur Terre quoi. Et puis donc on suit l'épopée d'une jeune fille qui s'appelle Marie, de sa petite sœur qui s'appelle Léonie. Et également donc de Philippe hein, qui a une voiture donc avec qui ils sont et qui traversent. On peut supposer que ça se passe en Allemagne. Enfin le lieu a pas vraiment d'importance. Ils traversent l'Allemagne donc et puis ils sont rejoints aussi en cours de route par un autre larron. Et ça décrit cette épopée, film post-apocalyptique, postulat classique, à la recherche de l'essence, survivre, essayer de trouver un point d'eau hein, qui est un peu le point de départ du film parce que en remettant de l'essence ils s'aperçoivent que il y a des oiseaux qui volent donc ils se dirigent donc forcément vers un point d'eau, donc enfin, en tout cas ils en tirent cette conclusion, et ce point d'eau se situe dans une région montagneuse, donc ils se dirigent vers cette région montagneuse, et entre temps ils passent par une station service dans laquelle ils sont agressés par l'autre larron, qui en fait va se révéler justement pas trop être un salaud, c'est juste un type qui essaye de survivre, et qui vont prendre avec eux au départ sur la base d'un deal, et puis ils vont l'emmener avec eux, mais à un moment ils vont tomber sur une sorte de barrage qui est tenu sur la route, et c'est là que la situation va basculer, et car ils tombent dans un traquenard, et on n'en dira pas plus. Mais Pierrick, qu'as-tu pensé de ce film post-apocalyptique ?
Bah moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très, très maîtrisé, et dans l'interprétation, la réalisation, la musique, c'est-à-dire il n'y a aucune musique quasiment pendant tout le film, c'est utilisé juste à la fin où il y a une scène un peu forte d'évasion, enfin je vais pas en dire plus. Bah vraiment tout est intelligemment conçu. Alors pour parler un petit peu de la mise en scène, mais des idées que j'aime bien, alors il y a cette idée d'une grille de mots croisés sur un journal, j'ai bien aimé comment c'était utilisé, c'est-à-dire que du coup pour se protéger du soleil, alors déjà ils sont bardés au niveau des fringues dès qu'ils sortent, ils sortent plutôt la nuit, s'ils sont obligés de sortir le jour, ils sont entièrement couverts par leurs vêtements, par une casquette, il y a vraiment que les yeux qui passe pour se protéger des morsures du soleil, et pareil pour la voiture qui est entièrement recouverte avec des papiers journaux, des cartons, et donc il y a une grille de mots croisés qui est collée sur la vitre, et la petite sœur s'amuse à faire les mots croisés, et une des définitions c'est connard en 5 lettres, quelque chose comme ça, et donc elle parle avec sa sœur, elle cherche des mots, et puis à un moment dans le film elle est kidnappée, bon on peut le dire, je pense que ça en dévoile pas trop parce que ça intervient assez rapidement dans le début du film. Et là, la grande sœur rentre dans la voiture et elle voit que sur la grille, elle a mis Marie, c'est-à-dire le nom de sa sœur à la place de connard. Et c'est un petit peu tout ce qu'on a l'impression qu'elle reproche à sa sœur au début du film, c'est-à-dire de pas être assez, être assez forte, de trop se reposer sur l'autre.
Sur Philippe,
je cherchais son nom. Et du coup, on a l'impression que ça booste un peu la sœur qui va décider de partir à sa recherche. Enfin, en tout cas, sa sœur est boostée. Enfin, ça illustre en tout cas cette idée un petit peu de cheminement au niveau de la sœur.
Il faut dire personnage qui évolue, voilà, voilà. L'évolution du personnage.
Ouais. Et il faut dire que les personnages sont extrêmement bien campés. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire ils sont pas du tout caricaturaux. Ils ont tous leur chance, c'est-à-dire à un moment, alors effectivement, le Philippe est plutôt dépeint comme quelqu'un d'assez lâche, enfin qui est assez individualiste. Et bien, finalement, il y a quand même une scène où il va se montrer plutôt solidaire et même courageux, hein, quelque part, parce qu'il va quand même. Ouais, il se rend compte qu'il est.
On n'en dit pas plus. Voilà, on n'en dit pas plus. Dit pas plus. Ben, ça va aller courageux.
Bon,
tout cas,
chaque personnage a comme ça un moment où il nous surprend. Ils sont pas du tout enfermés dans des stéréotypes. Et inversement, il y a un moment où l'héroïne bascule et. Il commet quand même des actes assez graves. Enfin, pareil, tout ça, c'est vraiment très bien amené. C'est plutôt agréable. Du coup, on a vraiment l'impression d'assister à un film très, très réaliste et dans la psychologie des personnages et dans le scénario et les intrigues. Parce que finalement, la façon dont ils essayent de survivre comme ça, bon, c'est plutôt des éléments très, très réalistes. Et autre chose qui est quand même pas mal dans ce film, c'est qu'il arrive bien à tenir une ligne. C'est-à-dire il y a des moments où on se dit ouais, ça y est, ça va basculer un petit peu dans le film d'horreur pur et dur comme on en a vu pas mal, et il arrive à rester un petit peu en deçà de ça et donc finalement à garder ce côté très très intéressant. Tout est bon, là c'est peut-être un point de vue qui tient pas trop, mais bon, c'est pas forcément très gênant. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup. On est censé avoir que le point de vue normalement de
l'héroïne.
De l'héroïne, ouais. C'est-à-dire quand elle s'évanouit, l'image passe au noir. Et bon, il y a plusieurs choses qui sont quand même données au spectateur hors information que peut donner l'héroïne. Mais bon, c'est pas.
Moi, je trouve que, enfin, en même temps, il y a un petit jeu en fait avec le spectateur, puisqu'en fin de compte, au départ, on croit que le personnage fort va être ce Philippe là, et puis après, en fait, le personnage fort, ça devient cet autre larron qui les rejoint, Tom, et puis en fin de compte, on s'aperçoit que Léonie, la petite sœur, en fait, est un personnage fort. Elle a beaucoup de volonté, elle est très pugnace. Elle essaye même de pousser sa grande sœur, donc l'héroïne du film, Marie, à se prendre en main. Et puis en fin de compte, après, l'héroïne, c'est Marie, quoi. Et donc, il y a différents petits changements de point de vue, mais effectivement, c'est plus l'histoire de Marie que l'histoire des autres protagonistes. Mais moi, ce que j'aime bien, effectivement, chaque protagoniste a sa chance. Et puis, bah, je t'avouerai, en fait, au départ, le film m'a fait peur, parce que ça démarre par une séquence, il y a des Français en fait qui sont en voiture et qui tombent dans le même piège dans lequel ils vont tomber en fait, quoi, hein, et qui ont un accident de voiture. Et la Française est poursuivie et on a de la shaky cam, le plan est illisible. Je me dis non, c'est reparti, petit budget, donc shaky cam, donc cadré serré, tout ça, bon. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est un parti pris de la réalisation. Alors après, il n'y a plus de plan chez Kikam quand même. Après, c'est quand même très lisible. C'est ça qui est très agréable. Mais par contre, c'est beaucoup cadré serré, beaucoup cadré en gros plan. Mais c'est des vrais choix de réalisation. C'est pour vraiment qu'on vive l'intensité des situations avec les personnages. Parce que à certains moments clés dans le film, le réalisateur choisit de faire des plans d'une ampleur quand même assez impressionnante. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils arrivent dans ce piège, la caméra arrête de coller au personnage. Et la caméra fait un magnifique plan en contre plonger vers ce piège. Et il y a un autre moment aussi qui est une scène de repas primordiale. On sent que le réalisateur d'ailleurs aime beaucoup Massacre à la tronçonneuse, puisque effectivement il y a un moment la fille sort par la fenêtre comme dans Massacre à la tronçonneuse. Il y a donc aussi des scènes un peu de boucher qui tue des êtres humains, un peu comme dans Massacre à la tronçonneuse, avec la même arme que dans Massacre à la tronçonneuse, c'est-à-dire cette sorte de gros marteau à la fois piqûre dont on se sert pour tuer les bovins. Et puis il y a donc la scène de repas, hein, bien sûr, Massacre une fois de plus, hein. Enfin, en même temps, c'est plutôt une bonne référence. Puis c'est pas trop visible, c'est plutôt bien utilisé.
Ah, puis vraiment très bien cette
voilà, scène. La scène est très très bien, ce que j'allais dire. Le plan est très aéré, très bien filmé, alors que c'est dans un lieu clos. Donc on sent qu'en fait, c'est plutôt des choix de réalisation. Donc du coup, de cadrer serré, de faire des plans parfois pas trop fixes et tout ça, et du coup ça passe bien, parce que ça devient vraiment des choix de mise en scène. Et effectivement, il y a plein d'idées de mise en scène assez intéressantes. Il y a par exemple au niveau de la photo, alors c'est très simple, mais tout est surexposé. Donc on a vraiment l'impression de subir à la fois la chaleur écrasante, le poids écrasant du soleil. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas souligné par de la musique qui, comme tu l'as dit, par une musique assourdissante, c'est uniquement fait sur le travail de l'image en fait. Et donc ça, pour moi, c'est assez fort. Il y a aussi une belle idée de mise en scène avec des talkie-walkie, qui est, je révélerai pas pour pas déflorer l'intrigue, hein, mais qui est une belle idée de mise en scène qui est une scène vraiment on s'attend en fait à ce type un peu de comment dire d'aléa dans le scénario, sauf que c'est quand même super bien amené quoi. Et puis moi en fait ce que j'aime dans le film, qui par ailleurs était quand même un film de post-apocalyptique assez classique, je veux dire c'est pas non plus le film du siècle, mais enfin c'est un film qui tient bien la route, c'est un premier film écrit et réalisé par par Tim Fellbaum, même si pour le scénario il est aidé de Deloustic. Mais moi ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce film, c'est aussi la qualité, alors tu l'as abordé rapidement, mais la qualité des dialogues, parce qu'en fait il y a très peu de dialogues mais ils sont très justes, et on arrive à avoir de l'empathie pour les personnages, on arrive à comprendre les personnages, d'où ils viennent, quelles sont leurs motivations à travers des dialogues tout simples. Et c'est vraiment la preuve quand même d'un cinéaste quand même qui maîtrise déjà
son sujet. On a l'impression que les informations elles sont lâchées incidemment dans les dialogues. Il n'y a jamais de dialogue lourdingue, très explicatif. C'est juste des informations qui sont lâchées comme ça, comme quand finalement les gens parlent dans la vie de tous les jours, qui distille des informations, mais à aucun moment ça donne vraiment une impression de quelque chose d'artificiel ou pesant, où les informations sont données vraiment par des idées de mise en scène, comme ce que je disais avec la grille de mots croisés, où bon, y a plein d'autres idées dans le film comme ça, donc c'est quand même vraiment très bien.
Et un film qui évite tous les écueils en plus, tous les écueils que d'autres films n'évitent pas, enfin que la plupart des films n'évitent pas d'ailleurs actuellement, c'est-à-dire qu'on a effectivement cette shaky cam au début, mais elle disparaît pour avoir une réalisation plus apaisée et qui monte en intensité uniquement quand c'est nécessaire. Quoi. On a aussi cette scène où il va y avoir une scène digne d'un torture porn, mais en fait au lieu de filmer la scène de torture, on filme le contre-champ, c'est-à-dire le visage de l'héroïne qui voit l'un de ses amis se faire massacrer. Et puis surtout il y a aussi quelque chose de fort dans le film, c'est que le film se termine quand même par une note d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a c'est la solidarité qui permet en fait à ceux qui ont survécu de s'en sortir. C'est assez rare en fait, parce que souvent dans le genre post-apocalyptique c'est vraiment l'individualisme forcené, ben c'est Mad Max, Max le fou, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de supérieur aux autres, de plus fort, qui s'en sort, mais qui s'en sort tout seul, quoi. Et d'ailleurs, je trouve ça plutôt intéressant dans le film. Il y a plein de bonnes idées. Il y a un moment aussi où l'héroïne doit tuer, et ben elle vit pas, elle ne tue pas, enfin, elle vit pas ça comme quelque chose, elle expie pas quelque chose. C'est pas une catharsis, elle tue et tout de suite après, elle est assez fébrile, en fait. Elle le vit mal, alors qu'en fait, elle a pas trop le choix, mais en même temps, elle le vit mal. On sent que c'est pas quelque chose. C'est assez intéressant, je trouve, tous ces points de vue là. Et puis bon, par-dessus tout, un peu comme The Awakening Hier, c'est aussi la révélation d'une actrice, et un beau portrait de femme, et la révélation d'une actrice, alors je vais essayer de dire son nom sans l'écorcher, c'est donc Anna Ersprung. Hein, donc voilà, j'espère que j'écorche pas son nom. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que vraiment c'est elle porte vraiment le film, cette actrice.
Ouais. Non, elle est vraiment, vraiment très bien du début jusqu'à la fin, et effectivement un peu en retrait, et au fur et à mesure elle prend de plus en plus d'ampleur, mais toujours très humaine. C'est ce que je disais, ça fait quand même partie de ce côté réaliste, à aucun moment on part dans un délire je sais pas, genre super héroïne, enfin ces héroïnes comme peut en avoir James Cameron,
comme Doomsday,
ces femmes
comme
super
Doomsday.
Fortes, femmes soldats un peu, à aucun moment c'est ça quoi, elle reste toujours, et c'est ce qui permet d'ailleurs l'empathie, c'est qu'elle garde toujours une certaine fragilité, tous les personnages, et en fait bon, je voulais pas le dire tout à l'heure, mais effectivement à un moment elle est amenée à tuer, c'est finalement ça nous montre que voilà, on a tous une part à la fois d'humanité, de bestialité. Même un des méchants du film à un moment a une réaction presque attendrissante quand sa mère meurt,
bien sûr. Non, mais le film, donc vous l'aurez compris, n'est pas un grand film, mais en tout cas est un bon film, et surtout un très bon premier film. Hein.
Je veux dire, pour un premier film, ouais, c'est toi qui attire mon attention là-dessus tout à l'heure. Effectivement, pour un premier film, on se dit chapeau quoi, quand même.
Donc on a hâte, si Tim Fellbaum décide de persévérer, je le pense, hein, dans le fantastique, puisque son court métrage qu'il a fait connaître était un court métrage de zombies. On est prêt à recevoir ses prochaines réalisations.
Seit 3 Jahren gibt's keine Ernte mehr. Nur wenige von uns haben überlebt. Manche sagen, dass es über der Baumgrenze wieder regnet. Ich glaube nicht daran.
Ich habe draußen einen Vogel gesehen. Der flog nicht gleich, aber ich nur wie wir.
Siehst du? wenigstens zeigen. Was ist, wenn es da oben nicht besser ist?
Na, die Vögel, die wissen, wo das Wasser ist.
Wir wurden überfallen. Die kommen alle paar Wochen runter, fangen Leute ab und verschwinden wieder. Ich muss meine Schwester finden. Leonie! Wo ist Leonie?
Fahr los!
Ich habe Rauch gesehen, ungefähr 3 Kilometer in diese Richtung.
Ich tue dir nichts. Im Gegenteil. Was macht ihr hier? Die Sonne wird dich verbrennen.
Alors, puis hors compétition, il y avait, un documentaire qui nous fait regretter vraiment. Qui n'est pas une section documentaire dans ce festival. Hein. Déjà l'année dernière, il y a eu de très bons documentaires, Machete Unleashed, ou voilà, des choses super intéressantes.
Ou peut-être mélanger les deux aussi.
Oui, ou mettre un documentaire en compétition officielle, c'est vrai. Et là, on a pu voir le fameux Corman's World, Exploit of a Hollywood Rebel, par Alex Stapleton, qui est une femme en fait, hein, parce que Alex, ça pourrait être un homme, mais non, c'est une femme. Et ce documentaire d'1h40 qu'on ne voit pas passer du tout retrace donc toute la carrière de Roger Corman. Hein. Donc Roger Corman, on a un peu parlé dans l'émission d'hier. Y a déjà ce que je vous ai dit hier dans l'émission, hein, qu'on retrouve dans le documentaire. Et puis il y a plein d'autres choses. Et puis il y a plein d'extraits. Et puis il y a plein de témoignages de ses proches, de gens qu'il a lancés, comme Scorsese. D'ailleurs, il parle à un moment du film dont je cherchais le titre hier. C'est Boxcar Bertha, en fait, le premier Scorsese, sur donc l'histoire d'amour entre une féministe et un syndicaliste à l'époque, quoi. Et puis il y a tous ces gens-là. Il y a Nicholson, il y a Scorsese. Il y a Peter Bogdanovich qui l'a lancé aussi. Il y a Nicholson qui est très touchant. D'ailleurs, il est très touché par Corman parce que pendant 10 ans, il a vécu que grâce à Corman, qui a cru qu'il faisait tourner. Il y a bien sûr Peter Fonda. Il y a bien sûr. Il y a pléthore. Il a découvert tellement de monde. Il y a Ron Howard, alias le Richie Cunningham de Happy Days, mais aussi réalisateur de blockbuster qui cartonne aujourd'hui, dont nous, on n'est pas très fan. Mais c'est quand même quelqu'un qui l'a découvert également. Il n'y a pas Coppola dans le documentaire par contre, mais bon, après, il y a plein de gens. C'est passionnant. Il y a Tarantino, bien sûr. Il y a Joe Dante, Alan Arkush. Il y a Alan Arkush. Je vais essayer de bien le dire. Donc super documentaire qui fout la pêche, qui est super fun, qui est très rythmé, qui est très bien réalisé, qui me permet de pousser aussi un petit coup de gueule déjà parce que je vois pas pour l'instant d'édition DVD. Ceux qui étaient sortis l'année dernière, c'est pareil, n'ont pas connu d'édition DVD. Il y a une autre Quiet Hollywood qui est sortie en DVD qui est excellent sur la Ausploitation, c'est-à-dire les films australiens d'exploitation. À l'époque qui ont suivi la vague Peter Weir, mais même qui l'ont anticipé, et donc à part ça, ça sort jamais en DVD en langue française, enfin tout du moins en sous-titré français. Je trouve que c'est assez catastrophique, et puis jusqu'ici moi j'ai juste envie de dire que quand même c'est le film le plus maîtrisé, le mieux foutu que j'ai vu, mais bon c'est un documentaire hein. mais pour moi c'est pas un sous-genre le documentaire que j'ai vu pour l'instant dans ce festival quoi. Donc puis c'est un bel hommage, et puis c'est aussi tout un pan de l'histoire du cinéma américain. Donc vraiment une belle réussite, et donc j'aimerais juste j'aimerais bien que ça sorte en DVD, qu'il y ait plein de gens qui puissent le voir. Ce serait quand même chouette, et non pas sur un bonus caché quelque part sur un DVD quelconque. Et puis c'est un vrai coup de cœur, une vraie réussite ce documentaire. Et puis ça fait une fois de plus regretter aussi qu'en France on n'ait pas les moyens dans le documentaire, puisque tous les documentaires qu'on voit qui viennent des États-Unis sont produits, on imagine que c'est des budgets assez conséquents. Enfin, ça a quand même une autre gueule. Quand on connaît le coût moyen de production des documentaires en France, des difficultés à avoir des budgets pour boucler des documentaires, on ne peut qu'une fois de plus admirer quelque part, bien qu'ils aient pas de CNC, la volonté, en tout cas, des producteurs américains dans le documentaire à faire des choses de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans ce qui est produit par les grands studios, mais là en l'occurrence le documentaire est une vraie pépite à voir de toute urgence pour tous les fans de Roger Corman, mais pas que, parce que c'est un documentaire qui est plutôt grand public et qui est une belle découverte, et non seulement sur un pan de l'histoire du cinéma américain, mais sur aussi l'histoire des États-Unis, parce qu'en filigrane se dessine, parce que Corman est quand même très proche, enfin c'est Il dit qu'il est presque communiste pour pas dire qu'il est communiste, parce qu'aux États-Unis, être communiste, c'était se griller sa carrière. D'ailleurs, il a bien failli en tournant un film sur la ségrégation qui l'a ruiné à l'époque, qui s'appelle The Intruder, avec William Shatner, dont c'est le premier rôle. Et on découvre justement toute l'histoire des États-Unis en filigrane, c'est-à-dire l'explosion de Hells Angels, les mouvements contestataires, les mouvements hippies, voilà. Et puis voilà, y a tout ça dans le film, et donc un documentaire passionnant.
¿Hay alguien en la sala que haya visto E.T., el extraterrestre?
¿Es que usted ha visto el film E.T.?
¿Manas arriba?
¿Luz en la mano?
Quite well. Vale, ahora quiero que cerréis los ojos.
Ouvrez les yeux.
No habéis cerrado los ojos. Bien, ahora pensad en la primera vez que visteis E.T.
Rob, la primera vez que vous avez vu E.T.
A ver si esto va. ¿Recordáis la bicicleta?
Vous ouvrez la bicyclette.
Cruzando la luna.
Traversant la lune.
Mantén ese estadio en tu corazoncito de geek.
Gardez cette émotion dans votre cœur de geek.
Qu'est-ce que vous avez pensé du film ?
Très émouvant, vraiment une super histoire. C'était un sujet un peu casse-gueule sans doute, mais on voit qu'il y a plein de petites références à des films déjà vus, mais en même temps c'est frais, c'est très touchant.
Ouais, on sent que vous avez été ému.
Ouais, j'ai été ému, ouais. C'est vraiment la bonne petite surprise du festival pour l'instant.
Donc nous venons d'entendre quelques mots de Kike Maio, et non pas Kike Maio, hein, qui m'a fait faire quelques jeux de mots ridicules cet après-midi alors que nous faisions, alors que nous attendions le film. Alors un film qu'on attendait un peu avec impatience, hein, qui est un premier film donc de ce jeune réalisateur espagnol, jeune réalisateur quasiment notre âge en fait, mais enfin c'est un premier film. Le film s'appelle Eva. Et ce film donc raconte l'histoire d'un ingénieur brillant. Enfin, c'est une société, elle est pas située dans le temps, quoi. Mais bon, ça doit se passer en Espagne, hein, ça se situe en Europe, quoi. Et d'ailleurs, je pense que ça se situe en Espagne, puisqu'on voit très souvent des montagnes enneigées, ça ressemble pas mal aux Pyrénées. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un scientifique assez brillant qui vit dans cette société où on construit des robots en fait qui servent aussi bien de majordome que des chiens factices ou des chats factices pour accompagner les gens dans la vie de tous les jours. Et puis lui il travaillait dans une grande université où on fait que fabriquer des robots et tout ça et tout. Et lui c'est qui est interprété par Daniel Brühl, d'ailleurs l'acteur acteur intéressant qui avait joué dans le rôle principal dans Goodbye Lenin. Et en fait, ce type avait commencé à mettre au point un projet assez énorme de robot qui n'aurait pas justement de besoin, enfin qui aurait presque une âme, quoi, en fait, hein, qui serait pas soumis à des règles, à un code moral, à un niveau d'émotivité, puisque les robots sont soumis à un niveau d'émotivité qui est gradué, voilà, et donc un robot qui serait plus proche de l'humain. Et puis il a arrêté ses travaux, et puis il revient 10 ans plus tard dans cette université où il retrouve son frère, où il retrouve en fait la femme qu'il a autrefois aimée et avec qui il avait fait ses recherches et qui est aujourd'hui devenue la femme de son frère en fait, et qui est interprétée par la ravissante actrice qui avait été un peu la révélation de, donc s'appelle Marta Etura, ou Etura, je sais pas si je le dis bien, la révélation de Malveillance de Le Dernier Balaguero, où elle campait cette ravissante jeune étudiante qui se faisait maltraiter dans celui-là elle campe cette jeune maman d'une fille qui s'appelle Eva, donc à une dizaine d'années, on se pose la question, est-ce la fille du scientifique et tout ça, enfin bon bref, et lui il revient 10 ans plus tard, il y a cette sorte de triangle amoureux avec son frère, il reprend ses recherches en même temps, dans un contexte assez rigolo, on lui met un robot majordome et tout qui est plutôt marrant, qui est... j'allais dire peut-être la meilleure idée du film, mais bon voilà, et puis voilà, bon après, film espagnol, c'est-à-dire film depuis Fragile de Balaguero qui a imposé un nouveau standard, les films espagnols c'est en gros, ça démarre sur un postulat fantastique, le personnage principal a une faille dans son passé, on la découvre et ça se termine dans le mélo, si ce n'est que dans le Balaguero en fait, depuis qu'il a fait ce film-là, tous les films espagnols sont un peu calqués sur ce modèle, et malheureusement celui-ci est aussi calqué sur ce modèle, c'est-à-dire que il a des atouts, Il débute par un générique plutôt beau. D'ailleurs, c'est le film avec le plus beau générique peut-être depuis le début de la sélection. Enfin, en tout cas, avec un générique inventif qui fait un effort de ce côté-là. Il a un esthétisme assez raffiné, des très beaux plans, une belle photo. Bon, il a un énorme défaut, c'est qu'il démarre par un flash-forward qui raconte quasiment, enfin, qui nous fait deviner quasiment en fait la fin du film, quoi. Donc c'est un peu ridicule. Et puis après, bah, le film, voilà, plein de bons sentiments, est bien calibré, est bien fait pour plaire en fait. Il est bien dans l'optique des derniers films espagnols qui nous prennent plus aux tripes, malheureusement. C'est, enfin, pour moi personnellement, ça reste un film qui se tient bien esthétiquement, qui est bien interprété, qui est assez réussi, qui est familial. Mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Voilà, quoi. Alors Pierrick, qu'en as-tu pensé, toi?
Bah, un peu la même chose que toi. Enfin, beaucoup de facilité dans ce film quand même. Alors déjà le flash forward, ça m'a un peu d'entrée de jeu comme ça. C'est vraiment un procédé que je trouve très très facile, c'est-à-dire alors ils prennent une scène qui va arriver aux trois quarts du film, hop, on la met au début histoire d'accrocher d'emblée le spectateur sans essayer de trouver une autre attaque, un autre angle, enfin ce qui était par exemple le cas de du coup j'ai repensé à The Awakening, l'éveil, la traduction française c'est même pas
la
ça,
maison des ombres,
la maison
crois,
des ombres, il y avait cette scène fabuleuse d'entrée de jeu où il y avait une séance de spiritisme qui était une fausse séance où l'héroïne arrivait qu'elle démontait en rien de temps, ça c'était bien quoi. Donc là ça commence par un flash forward qui est quand même un procédé hyper usé dans les séries américaines en plus, archi revu.
Il y en a même une qui porte ce nom d'ailleurs, Flash Forward, de série américaine. Pas très bonne d'ailleurs.
Ça veut tout dire. Donc voilà, puis il y a quelques clichés comme ça. Enfin, je sais plus, à un moment il arrive, donc il descend de sa voiture, ça neige, il neige. Il jette un coup d'œil et puis il y a l'héroïne qu'on voit un petit peu plus loin, il reste la regarder, elle fait autre chose, puis d'un coup elle capte son regard. Enfin, ce genre de choses qui sont quand même des ficelles assez usées dans les films. Du coup, ça... Enfin, toutes ces facilités font que ça donne un film quand même assez mou, quoi. Qui accuse d'ailleurs de sérieuses baisses de rythme. Enfin, moi, il y a un moment du film où j'ai un petit peu même décroché de l'histoire. Le triangle amoureux, je trouve pas très réussi, assez mal campé, très, très mélo.
Bah, je trouve aussi que l'acteur qui fait le frangin est pas très persuasif.
Ouais, voilà, c'est ça, il est quand même très, très phallo. Enfin, ça. Bon, ça marche pas vraiment. Bon, alors comme tu dis, après ça se regarde avec plaisir parce que c'est très bien réalisé. Ça se passe en plus, il y a de la neige, donc c'est toujours assez, assez cinégénique. Bon, il y a un truc en fait dans le film aussi, un petit truc du scénario qui fait que c'est assez malin. Moi j'ai vu venir assez tard en fait, hein. Je crois que tu l'avais peut-être anticipé plutôt que moi. Et ce qui fait que du coup, du fait de cette idée de scénario, on se dit que finalement ça aurait fait un bon épisode de la quatrième dimension, je trouve, ou une bonne idée pour un court-métrage. Mais bon voilà, la tech et le film, non, franchement c'est pas du tout enthousiasmant.
Oui, après c'est un film qui peut rencontrer aussi, c'est vrai, son public, hein, mais bon, franchement, bon, c'est bien troussé, c'est un très bon premier film, hein, bon, c'est pas du niveau de Elle dont on a parlé en début d'émission quand même, qui est un premier film un peu plus couillu, quoi, quand même, qui prend un peu plus son sujet à bras-le-corps. C'est un film qui est dans la norme des productions espagnoles, c'est-à-dire qualitativement, au niveau esthétique, plutôt réussi, mais bon, après, il y a un petit truc quand même, c'est le personnage de la gamine qui est un peu agaçant mais qui est assez fascinant, enfin qui est bien campé par cette gamine qui s'appelle Claudia Vega en fait, qui joue le rôle d'Eva, et elle a un vrai pep, c'est une vraie personnalité, cette gamine, elle est vraiment assez assez pertinente, elle a des remarques assez pertinentes. Il y a quand même quelques bonnes scènes, il y a un moment il essaye de avec la gamine, il y a des moments assez troubles où en fait on a l'impression qu'elle essaye de rabibocher à l'insu de son propre père à elle, donc le frère du héros, elle essaye de rabibocher le héros avec son ex, enfin c'est assez malsain à la limite, elle raconte que ils vivent pas dans la même maison, comme ça le héros se pointe, il commence à vouloir mater son ex, et en fin de compte son frère débarque parce que c'est bien là qu'ils vivent ensemble. Enfin, il y a quelques idées comme ça un peu malsaines qui sont pas exploitées. Bon, il y a un moment où c'est pareil, lui il bosse sur un prototype de robot, il est venu pour ça. Et puis son grand truc c'est quand même de faire un robot qui soit très proche de l'humain, et justement il fait un robot qui est très proche de l'humain, seulement ce robot manque de le tuer dans un accès de colère parce que un robot a une force quand même très décuplée par rapport à un être humain, surtout par rapport à un enfant. Ça donne une scène, moi je trouve, une des rares scènes vraiment un peu flippantes et réussies du film, je trouve. Puis j'aime bien ce personnage de majordome, mais bon voilà, enfin ça c'est en tout cas En tout cas, voilà, on a vu plus de la moitié de la sélection. Enfin, je laisserai Pierrick peut-être revenir sur ce sujet, mais on a vu plus de la moitié de la sélection. Et pour l'instant, il ne se dégage pas de films très très forts, comme on en avait eu l'année dernière, quasiment un par jour, qui nous estomaquait, qui nous prenait aux tripes. Et là, très franchement, je dois avouer que ce film m'a mis un coup de massue, parce que c'est le week-end qui arrive. Généralement, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait des films un peu plus qualitatifs qui arrivent. Et puis, il y avait beaucoup plus de public. Donc, on s'attendait vraiment à quelque chose de mieux. Et en fin de compte, du coup, je suis déçu. Le film n'est pas si mauvais que ça, mais du coup, je suis déçu quoi, par tout ce que j'ai vu depuis le début du festival. Pour l'instant, la sélection, je la trouve plutôt moyenne.
Bah, pareil, je vais pas être très longtemps ton contradicteur préféré, parce que je suis plutôt d'accord avec toi pour l'instant, pour le début de ce festival. Juste pour finir sur Eva, je te rejoins vraiment sur cette scène d'accès de rage du robot qui est vraiment très bien, qui en plus un petit indice sur la fin. Enfin, franchement, ça c'est vraiment excellent. Mais sinon, ça reste vraiment en surface des choses, quoi. C'est-à-dire, on aurait aimé qu'il y ait de l'étrangeté qui soit introduit là-dedans. Même l'idée des robots, parce que finalement, ça ressemble à un monde vraiment comme le nôtre. Il n'y a pas beaucoup plus de changements que ces robots, quelques trucs technologiques un petit peu évolués. Enfin, il s'est pas foulé quoi. Et sur le reste de la sélection, effectivement, c'est assez décevant. Il y a aucun film très fort, aucun film audacieux non plus. Donc, bon, pour l'instant, un petit peu déçu quand même. Les deux films qui s'en tirent le mieux, effectivement, c'est Elle qu'on a vu ce matin et The Awakening.
Ouais, tout à fait.
Mais en même temps, quelque part, c'est pas non plus des films
ce sont pas des
surprenants,
ouais.
c'est pas des uppercuts, enfin, on n'en sort pas troublé, enfin, même si on prend beaucoup de plaisir à les voir, c'est des films de très bonne facture, très bien réalisés. Voilà pour l'instant ce qui se dégage de ce festival. Mais peut-être que demain va changer la donne. Qui est-il demain?
Bah, c'est vrai, ben voilà, tu fais la transition pour moi. Donc c'est vrai que demain on attend quand même pas mal, parce que déjà il y a le premier film sud-coréen de la compétition qui s'appelle The Cat de Byung Sung-wook, qui était donc l'assistant de Lee Chang-dong sur Peppermint Candy, où on a déjà parlé dans les émissions précédentes, qui est déjà donc quelqu'un de chevronné, a déjà un long métrage à son actif, et puis bon bah là voilà, sud-coréen, donc c'est garanti quand même, je pense, une qualité plastique, enfin, bon, je pense qu'on devrait avoir à faire quelque chose d'assez beau. Et puis puis moi j'adore les chats, donc là le film s'appelle Le Chat, donc mon The Cat, en utilisant cet animal, le chat, bon voilà, c'est voir qu'elle, en même temps ça a déjà été utilisé des millions de fois, hein, au cinéma, donc voir un peu ce que ça va donner. Bon, le seul truc qui me fait peur, c'est le scénar, hein. Bah, après le traitement peut être vraiment génial, hein, j'espère en tout cas, parce que le scénar, c'est quelqu'un qui travaille dans une animalerie, en tout cas c'est ce qui apparaît dans le dossier de presse, quelqu'un qui travaille dans une animalerie et qui est obligé d'adopter un chat. Et depuis, après, une fois qu'elle a ce chat, elle a des apparitions fantomatiques. Elle voit des apparitions fantomatiques. J'espère qu'on va pas en rester au stade film de fantôme classique. Enfin voilà, j'espère que ça va aller au-delà de ça et que je vais prendre mon pied en regardant ça. Puis en deuxième film, il y a un film, bon, moi je l'ai dit dès le début de la semaine, hein, le film qui est calibré pour me faire triper, hein, film de pensionnat de jeune fille avec Lily Cole, qui est une actrice très 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 belle, avec un charme vraiment particulier, un visage très particulier, qui était apparu pour la première fois dans l'Imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam. Et bon, ce truc qui me fait peur en fait, parce que le postulat de départ me paraît plutôt intéressant, une nouvelle élève qui arrive dans un pensionnat de jeunes filles et tout se dérègle et tout part en sucette quoi, hein. Et ce truc qui me fait peur, ça me fait plaisir, c'est un film réalisé par une femme, en même temps le truc qui me fait peur, c'est que c'est Marie Aron et qu'elle avait réalisé American Psycho et qu'elle avait un peu massacré le super bouquin de Bret Easton Ellis, donc j'espère que quand même le film sera à la hauteur de mes attentes. C'était Culture Prohibée attaque Gérard May, une émission préparée et animée par les équipes des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Plus d'infos sur notre blog culture-prohibée.blogspot.com. Cette émission était animée par Pierrick Guélec, dit le Yeti Breton, par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. On remercie aussi, parce qu'on l'a pas fait, on remercie Public System de nouveau pour cette émission. Et puis, bon, on vous signale que notre inusable technicien son, The Last But Not The Least, a travaillé à la technique de cette émission, comme d'habitude, vaillamment. Donc, en l'occurrence, monsieur Léo Magnin. Salut les gens, à demain. We'll be right back.